Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce micro. Dans moins de 5 minutes, le magazine de l'économie. Du fait de l'épidémie d'Ebola, la Sierra Leone et la Guinée vont plonger dans la récession, selon la Banque mondiale.
La Banque mondiale dit que le produit intérieur brut de la Sierra Leone va se replier de 2,0%, tandis que la contraction devrait être moindre en Guinée, moins 0,2%.
C'est Michel Joseph qui a les détails de cette actualité. Les pays les moins avancés ont fait des progrès, mais ils restent insuffisants pour lutter contre la pauvreté, note la CNUSED. Et la chute des prix du pétrole fait des perdants, mais aussi des gagnants. Nouvelle attaque dans l'est de la République démocratique du Congo. 3 civils ont été tués la nuit dernière à Eringeti, dans le nord Kivu. C'est ce qu'indique l'AFP, un assaut attribué aux rebelles ougandais de l'ADF. Les autorités locales affirment que l'armée a repoussé les assaillants. Rappelons qu'en octobre, 24 personnes ont été massacrées à l'arme blanche dans cette localité. Le président Uhuru Kenyatta a limogé le ministre de l'Intérieur et le chef de la police après un nouveau massacre perpétré par des islamistes somaliens de Shebab Idriss Fall.
Le président Kenyatta a annoncé le limogeage de Joseph Ole Lonku et son remplacement par Joseph Nkaiseri comme ministre de l'Intérieur. Il a mis à la retraite anticipée David Kimayo, le chef de la police. Les deux hommes étaient sur la sellette suite à de nombreuses attaques meurtrières perpétrées par les islamistes somaliens. Cette nuit, une vingtaine d'assaillants ont pris d'assaut un campement d'ouvriers près de Mandera, à la frontière avec la Somalie. Selon la Croix-Rouge, au moins 36 personnes ont été tuées. Certaines victimes ont été égorgées et décapitées. Les Shebab ont revendiqué ce massacre qui a eu lieu peu après une autre attaque contre un bar dans la ville de Wajir, qui avait fait un mort et 12 blessés. En fin novembre, dans cette même région, les Shebab avaient intercepté un bus et exécuté froidement 28 passagers non musulmans.
Au Zimbabwe, le parti du président Robert Mugabe, au pouvoir depuis 1980, est en congrès, un conclave capital pour l'avenir du pays. Le congrès a lieu quelques jours après une spectaculaire purge qui a vu l'éviction de plusieurs poids lourds. Au premier jour du congrès aujourd'hui, des tracts ont circulé dans la ville de Harare, distribués par des activistes appelant à un vote de défiance contre le président Mugabe. Hommage aux martyrs de la révolution au Burkina Faso, le président de la transition, Michel Kafando, et son premier ministre, le lieutenant-colonel Isaac Zida, et des dizaines de milliers de personnes ont rendu un dernier hommage aux victimes tuées lors du soulèvement d'octobre dernier. Cette cérémonie a eu lieu donc aujourd'hui à Ouagadougou, dans toute la ville.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Et dans le reste du monde, les députés français ont adopté une résolution invitant le gouvernement à reconnaître l'État palestinien. 339 parlementaires ont voté pour et 151 contre. Ce texte adopté par l'Assemblée française a une portée symbolique, car il n'engage en rien le gouvernement français. Anan Achraoui, une dirigeante palestinienne, a salué ce vote et appelle le gouvernement français à le traduire en acte. Pour l'ambassade d'Israël à Paris, le vote des députés français va éloigner les possibilités d'arriver à un accord de paix. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a appelé aujourd'hui à des élections législatives anticipées après avoir limogé deux ministres importants, des centristes opposés à une partie de sa politique. Il s'agit du ministre des Finances Yair Lapid, figure du centre-droit, et de la ministre de la Justice Zipi Livni, qui incarne le centre-gauche. Des élections anticipées qui pourraient se tenir début 2015. La Knesset, le Parlement israélien, commencera demain l'examen d'un projet de loi de dissolution, une procédure qui pourrait s'achever le jour même ou lundi, selon la radio publique israélienne. Ici aux États-Unis, les législateurs républicains continuent d'attaquer le président Barack Obama pour avoir décidé par décret la légalisation de près de 5 millions de sans-papiers. Lors d'une audience aujourd'hui à la Chambre basse, le député Michael McCaul du Texas a averti que cette mesure va encourager plus d'immigrants à essayer d'entrer illégalement sur le territoire américain, ce que rejette le secrétaire à la sécurité intérieure Jay Johnson, qui a défendu la légalité du décret sur l'immigration, mais aussi son possible impact positif sur l'économie. Vous écoutez VOA Afrique, restez avec nous dans un instant. Camille Gros-Didier sera avec vous pour le magazine de l'économie.
Camille Grosdidier avec vous pour le magazine hebdomadaire de l'économie. Les titres tout d'abord. Du fait de l'épidémie à virus Ebola, la Sierra Leone et la Guinée vont plonger dans la récession, annonce la Banque mondiale.
La Banque mondiale dit que le produit intérieur brut de la Sierra Leone va se replier de 2,0%, tandis que la contraction devrait être moindre en Guinée, moins 0,2%.
Michel Joseph apportera des détails. Les pays les moins avancés ont fait des progrès, mais ils restent insuffisants dans la lutte contre la pauvreté, note la CNUSED.
Il y a eu de progrès de la part des PMA, dans le front de l'éducation, de la santé maternelle, etc. Mais ce progrès n'a pas été suffisant pour assurer la réalisation des OMD.
Monsieur Rolf Traeger, haut responsable à la CNUSED, reviendra sur le rapport de l'organisation sur les pays les moins avancés. Et la patronne du FMI, Christine Lagarde, se félicite de la chute des prix du pétrole, tout en reconnaissant qu'il y a des perdants dans l'affaire. Du fait de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola, la Sierra Leone et la Guinée vont plonger dans la récession en 2015, a indiqué mardi la Banque mondiale. Des précisions avec Michel Joseph.
Dans un communiqué, la Banque mondiale dit que le produit intérieur brut de la Sierra Leone va se replier de 2,0%, tandis que la contraction devrait être moindre en Guinée, moins 0,2%. Le Libéria s'en sort mieux puisqu'il voit ses prévisions de croissance revues à la hausse depuis octobre de 1,0% à 3,0%, même si ses projections restent nettement inférieures à celles ayant cours avant le début de l'épidémie, 6,8% selon la Banque mondiale. L'épidémie d'Ebola qui s'est propagée en Afrique de l'Ouest depuis août a enrayé la production agricole, plombé l'activité économique, freiné les investissements et assombri les perspectives de croissance. Au total, d'après la Banque, le coût de l'épidémie pour les finances publiques des trois pays touchés s'élève jusqu'à près d'un demi-milliard de dollars et creuse d'importants trous dans les budgets. Pour faire face à l'épidémie, ces pays ont par ailleurs dû réduire leurs investissements publics, sapant les perspectives de croissance future, poursuit la Banque mondiale. Dans son rapport, la Banque estime que sa précédente estimation d'un coût total de l'épidémie en cas de propagation dans la région de 32 milliards de dollars reste valable. À noter que les Nations Unies s'inquiètent également de la détérioration des moyens d'existence dans les pays affectés par le virus à Ebola. La FAO et le Programme alimentaire mondial ont récemment évoqué les dysfonctionnements suivants, dus notamment à la fermeture des frontières, la perturbation du fonctionnement des marchés, une baisse de la production agricole et de la demande, la détérioration des moyens d'existence, la baisse du pouvoir d'achat des ménages, le risque de dégradation de la situation nutritionnelle en raison des difficultés d'accès à l'alimentation.
Washington, vous êtes à l'écoute de VOA Afrique, un programme de la Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Grosdidier pour le magazine de l'économie. Plusieurs centaines d'acteurs politiques et économiques étaient réunis lundi à Dakar pour le tout premier forum économique de la francophonie. Cette rencontre a débuté au lendemain du 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie qui a adopté une stratégie économique destinée à renforcer les échanges entre ses membres et mieux positionner l'OIF dans le monde. Le forum économique qui s'achève ce mardi a regroupé des centaines de participants, dont des opérateurs économiques, des responsables d'organisations internationales, ainsi que des dirigeants politiques. La francophonie est une force économique dans le monde, représentant 16% du produit intérieur brut mondial, 14% des réserves mondiales de ressources naturelles et 20% du commerce mondial, a déclaré le président sénégalais Macky Sall, hôte de la rencontre. Pour plus de précisions sur ce forum économique, Idriss Fall a joint son organisateur, Muntagasi, directeur général de l'APICS, l'agence de promotion des investissements au Sénégal.
Le premier forum économique francophone est bâti sur un constat de réalité sur les attributs de l'espace francophone qui pèse pour 720 millions de consommateurs et 7200 milliards de produits intérieurs bruts. L'espace francophone pèse aussi pour 14% de la population mondiale et 20% des échanges commerciaux de marchandises. Donc cela veut dire simplement qu'il y a l'existence d'un potentiel énorme en matière d'économie qu'il fallait transformer. Et le 15e sommet de la francophonie a tenu ses promesses, tant du point de vue de la mobilisation et de la pertinence des thèmes, mais aussi tous les chefs d'État qui ont intervenu ont parlé de l'urgence et de la nécessité de poser les jalons de l'espace francophone économique. Nous rappelons simplement que ceci rentre en ligne droite avec la vision de son Excellence le président Macky Sall, qui a déjà eu, je peux le dire parce que je l'ai vu, un pouvoir prémonitoire pour nous avoir instruit depuis 11 mois de préparer ce qu'on peut appeler le premier forum économique de la francophonie. Et ça a été confirmé hier. La secrétaire générale de la francophonie a posé l'espace économique et les enjeux économiques comme les défis majeurs de son mandat. Voilà ce que je peux dire, les raisons de l'organisation de ce premier forum économique francophone au Sénégal.
Et concrètement, qu'est-ce que ça va donner?
Ce qui va donner, c'est simplement on va transformer ce potentiel énorme en espace sous-régionaux, donc d'espace économique. On peut prendre l'exemple, par exemple, de l'UMOA, où il y a 8 pays. Ces pays qui font partie de l'espace francophone peuvent développer donc des espaces économiques en s'appuyant sur leurs vecteurs économiques majeurs. Nous allons aussi vers des propositions de réformes majeures qui permettraient donc la libre circulation des biens et des personnes, mais notamment en insistant sur les étudiants, donc au niveau du savoir. On va aussi travailler sur des réformes pour poser les jalons économiques de l'économie numérique, mais poser aussi les jalons essentiels de la transformation complémentaire des opportunités entre les différents espaces de la francophonie.
Monsieur Muntagasi, directeur général de l'APIX, l'agence de promotion des investissements au Sénégal. Washington, Camille Grosdidier pour le magazine hebdomadaire de l'économie de La Voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. La croissance des 48 pays les moins avancés est insuffisante pour les faire sortir de la pauvreté, affirme la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, la CNUSED. Les perspectives pour leurs exportations restent incertaines et leurs économies ne sont pas suffisamment diversifiées. L'an dernier, la croissance des PMA a atteint en moyenne 5,6%, un chiffre qui peut faire l'envie des pays industrialisés, mais qui reste inférieur au taux qu'avaient connu ces pays les moins avancés avant la crise financière de 2008, soit plus de 7%. En moyenne, les PMA ont réussi à faire passer la proportion de la population vivant dans la pauvreté extrême, c'est-à-dire moins de 1,25 $ par jour, de 65% en 1990 à 45% en 2010. Mais voilà, leur croissance ne suffit pas à réduire de moitié la pauvreté d'ici à 2015, l'objectif fixé par les Nations Unies. D'autres précisions avec Rolf Träger, directeur de la section des pays les moins avancés à la CNUSED.
Cet échec, c'est par rapport aux objectifs qui ont été fixés, c'est-à-dire les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. Ceci ne doit pas être interprété dans le sens de dire qu'il n'y a pas eu de progrès. Il y a eu de progrès de la part des PMA dans le front de l'éducation, de la santé maternelle, etc. Mais ce progrès n'a pas été suffisant pour assurer la réalisation des OMD. D'autre part, quelle est la leçon qu'il faut tirer de ça? C'est le fait que les PMA n'ont pas été capables de réaliser tous les OMD en dépit du fait qu'ils ont connu une croissance très accélérée au début de ce siècle indiquent qu'il y a un problème avec leur modèle de développement et les politiques qu'ils ont suivies jusqu'à maintenant. Et notamment, le principal problème, c'est que beaucoup d'accent a été mis sur le développement humain, mais il y a eu une certaine négligence relative par rapport au développement économique et le changement structurel et la création d'emplois dans ces économies. Et c'est exactement ça qui explique le fait que même si les PMA ont accompli beaucoup de progrès vers les OMD, ils ne seront pas en mesure de réaliser pleinement ces objectifs-là.
Mais quelle carence voyez-vous du côté du développement économique ?
C'est que le développement économique d'une bonne partie des PMA, des pays les moins avancés, a été basé sur la croissance des exportations, notamment de produits de base, c'est-à-dire exportation des combustibles, des métaux, etc., et sur l'accroissement de l'aide publique au développement qu'ont connu ces pays depuis l'année 2000. D'autre part, la majorité des PMA ont pris peu de mesures ou de mesures effectives qui impliquent le transfert du travail vers les activités plus productives qui permettent des revenus supérieurs aux travailleurs et qui permettent d'augmenter la productivité moyenne du travail de l'économie. Donc c'est ce manque de modernisation, ce manque de changement structurel et ce manque de création d'emplois de haute qualité qui explique pourquoi le développement humain a été en deçà des attentes pendant cette période qui pourtant a été une période de très forte croissance économique.
Alors, les pays en développement, on songe à l'Afrique, au sous-continent indien, à l'Asie du Sud-Est, connaissent un essor démographique considérable. Est-ce que la CNUSED a des recommandations à faire de ce côté-là ? Parce que, bon, on parle d'un dividende démographique, mais en même temps, c'est un défi très important à relever.
Oui, exactement. Justement, nous avons analysé le défi démographique, la transition démographique dans les PMA dans notre rapport de l'année dernière, c'est-à-dire celui de 2013. Et là, nous avons vu que les PMA sont le groupe de pays au monde qui connaissent la croissance démographique la plus accélérée. Et ceci pose exactement la question que nous posons à nouveau dans le rapport de cette année, c'est-à-dire la création d'un nombre d'emplois de qualité suffisant pour absorber toute cette main-d'œuvre. Or, ce que nous voyons actuellement, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'emplois de qualité qui sont en train d'être créés, mais plutôt des sous-emplois à basse productivité, à basse rémunération, qui sont à peine suffisants pour enlever les personnes de la pauvreté. Or, l'urgence de la transformation structurelle, c'est exactement de créer des emplois de qualité à plus forte productivité qui permettent aux gens d'avoir des revenus suffisants pour sortir de façon durable de la pauvreté et que ce processus soit durable dans le temps. J'aimerais ajouter que nous entrons maintenant dans une nouvelle phase des politiques de développement au niveau mondial. Cette nouvelle étape, elle sera marquée par les ODD, c'est-à-dire les objectifs de développement durable. Ils sont en train d'être discutés en New York en ce moment même, mais d'après leur dessin initial, il semblerait qu'ils seront beaucoup plus ambitieux que les OMD qui ont régi le développement, les politiques de développement entre 2000 et 2015. Par exemple, les nouveaux objectifs prévoient l'éradication de la pauvreté, alors que les OMD prévoyaient la réduction à moitié. Donc, les nouveaux objectifs seront beaucoup plus ambitieux que ceux qui ont en place maintenant.
Rolf Träge, directeur de la section des pays les moins avancés à la CNUSED, il était joint à Genève, en Suisse. Camille Grosdidier qui vous accompagne pour le magazine hebdomadaire de l'économie de la Voix de l'Amérique. La saison des achats de fin d'année qui a débuté avec le Black Friday, le vendredi noir, chez les détaillants, s'est poursuivie lundi avec le Cyber Monday, la journée durant laquelle les sites Internet offrent de très bonnes affaires aux consommateurs américains. Le point avec Lionel Gaïma.
Selon les premiers chiffres, il semblerait que les consommateurs étaient moins nombreux à se presser devant leur ordinateur cette année. Le vendredi qui suit la fête nationale de Thanksgiving est traditionnellement la journée de l'année où les Américains réalisent le plus d'achats. C'est également une journée qui permet aux commerçants de réaliser leur plus gros chiffre d'affaires et qui fréquemment les aide à tenir le coup le reste de l'année. D'où vient ce terme? Du fait que dans le passé, les comptables marquaient traditionnellement les pertes en rouge et les gains en noir. Selon le National Retail Federation, plus de 133 millions d'Américains ont procédé à des achats en personne ou en ligne depuis jeudi, un chiffre en baisse de 5% par rapport à 2013. Les détaillants surveillent les ventes en ligne de près parce que le Cyber Monday a remporté un succès toujours croissant ces quatre dernières années, de plus en plus de consommateurs cherchant à éviter les magasins bondés. Comscore, qui suit le commerce en ligne, affirme que le chiffre d'affaires des ventes en ligne de première semaine de novembre était nettement supérieur à celui observé en 2013.
Ici Washington, vous suivez VOA Afrique et vous êtes à l'écoute du magazine de l'économie avec Camille Grosdidier. L'agence de notation financière Moody's a annoncé lundi qu'elle baissait d'un cran la note de la dette à long terme du Japon à cause du surendettement du pays. Jacques Aristide.
Moody's a dégradé la note du Japon de AA3 à A1 après l'entrée en récession du pays au troisième trimestre. Cette annonce a provoqué un nouvel accès de faiblesse du yen, qui a brièvement touché un peu plus bas de 7 ans face au dollar américain. La dégradation de la note souveraine japonaise intervient moins de 2 semaines avant les élections anticipées convoquées par le Premier ministre Shinzo Abe. Il espère en retirer une nouvelle légitimité pour poursuivre ses efforts de relance de l'économie et d'assainissement des finances publiques. Le Fonds monétaire international, FMI, prévoit que la dette publique japonaise représentera 245% du produit intérieur brut d'ici au 31 décembre, rappelle Moody's dans un communiqué. La hausse de la TVA en avril dernier a pénalisé la consommation et l'activité économique, ce qui a conduit M. Abe à reporter un nouveau relèvement de la taxe sur la consommation destiné à assainir les finances publiques. La politique d'assouplissement quantitatif de la Banque du Japon, initiée par le gouvernement Abe, n'a pu relancer ni la consommation ni la croissance, mais a exacerbé l'endettement du pays. Les déficits et la dette du Japon restent très élevés et la consolidation budgétaire va devenir de plus en plus difficile à réaliser avec le temps au vu de la hausse des dépenses publiques, en particulier pour celles tenant aux programmes sociaux liés au vieillissement rapide de la population, explique Moody's dans son communiqué. Autre problème, si la Banque centrale du Japon parvient à stimuler l'inflation jusqu'à 2%, les coûts de financement de la dette colossale de l'État augmenteront.
Vous suivez avec Camille Grosdidier le magazine hebdomadaire de l'économie de la Voix de l'Amérique. À l'occasion de leur réunion jeudi dernier, les pays membres de l'OPEP ont décidé de ne pas réduire leur production sur fond de baisse des cours du brut. Si le baril de brut s'est changé cet été à plus de 100 dollars, il a sombré ces derniers jours à moins de 70 dollars. Morgan Guerriec.
On pourrait croire que pour les consommateurs américains, la chute des prix du pétrole est une manne tombée juste à temps pour mieux affronter l'hiver. En réduisant les coûts de l'énergie, cette baisse des prix devrait leur permettre d'économiser sur leurs frais de chauffage et de transport. Mais voilà, pour un autre secteur de l'économie américaine, la nouvelle est mauvaise. Car l'essor de la production de pétrole de schiste aux États-Unis est en partie à l'origine de la chute du prix du baril d'un tiers depuis le mois de juin. Mais avec cette baisse, les producteurs d'hydrocarbures de schiste américains risquent d'être obligés de produire à perte. Jusqu'à récemment, l'économie du Dakota du Nord était en pleine expansion, ce qui profite d'ailleurs au reste du pays.
Fracking is the miracle that has brought down gasoline prices. La fracturation hydraulique est le miracle qui a fait chuter les prix de l'essence, explique Phil Flynn, expert au Price Futures Group.
Les États-Unis peuvent dès à présent envisager d'être indépendants au plan énergétique.
The quality of the oil produces more gasoline than your traditional barrel of oil.
La qualité du pétrole permet de produire plus d'essence qu'avec le baril traditionnel. Les raffineurs américains en profitent, ajoute M. Flynn.
Austin Goolsbee, professeur d'économie à la Booth School of Business de l'Université de Chicago, avertit néanmoins que si la production de pétrole et de gaz a considérablement augmenté aux États-Unis, ce n'est pas une panacée.
Il y a un problème. Le coût de la production en Amérique du Nord a tendance à être supérieur aux régions moins chères, notamment l'Arabie Saoudite, explique le professeur Goolsbee.
D'ailleurs, Riyad en est bien conscient. Et cela explique pourquoi l'Organisation des pays producteurs de pétrole, l'OPEP, a jusqu'à présent refusé de réduire sa production.
Ils tentent de geler la révolution du gaz de schiste. Ils tentent d'inonder le marché de leur pétrole et de faire tomber les prix encore davantage pour mettre fin à la fracturation hydraulique, affirme M. Flynn.
Selon le professeur Goolsbee, les producteurs de pétrole et de gaz de schiste ne pourraient probablement pas tenir le coup si le prix du baril sombre en dessous de 75 dollars ou se maintient plusieurs années de suite aux alentours des 65 dollars le baril. Beaucoup d'entre eux feront faillite, prédit-il. Ironie du sort, le fait que les véhicules américains deviennent toujours moins gourmands en essence n'aide pas les producteurs, la demande baissant.
Vous suivez VOA Afrique, nous présentons le magazine de l'économie. La baisse des prix du pétrole pénalise également les pays africains producteurs, dont le Nigeria. Ce qui explique que la Banque centrale du Nigeria ait récemment dévalué la monnaie nationale, le Naira. Première économie d'Afrique, le Nigeria tire environ 70% de ses revenus du pétrole. Donc, l'effondrement des cours s'est traduit par une nette diminution de ses réserves de change et la Banque centrale s'est vue forcée de défendre sa monnaie en dévaluant, ce qui rend les produits du pays plus compétitifs. Comme la plus importante économie d'Afrique importe 80% de ses biens de consommation, cette mesure inquiète notamment les consommateurs nigérians. Pour une réaction, Timothée Dolongmaï a joint à Lagos l'avocat Hassan Silas.
On s'attendait un peu à ça, mais pas dans l'immédiat. Peut-être qu'on avait pensé que ça pouvait arriver en début d'année prochaine, quoi. Mais là, la nouvelle est tombée comme l'épée de Damoclès, quoi.
Quelle est l'incidence de cette mesure aujourd'hui sur le pays?
Oh, si tu veux, c'est vraiment catastrophique parce que tu sais qu'au Nigeria, ici, les produits exportés sont exportés en naira. Mais les produits importés, ils sont importés en dollars. Donc, ce qui fait que le coût devient très, très cher après la dévaluation parce que, alors que je te parle là, tous les commerçants ont stocké leur stock. Et ils ne veulent plus vendre, ils attendent jusqu'à la nouvelle décision pour voir s'il n'y a pas de changement, ils vont peut-être augmenter les prix sur le marché.
Qu'est-ce que le gouvernement prévoit de faire?
Oh, ben, il n'y a pas d'issue pour le gouvernement actuellement parce que nous sommes d'abord en pleine campagne électorale, ça c'est un. Et puis avec le prix du pétrole qui va chuter, ça va être vraiment, vraiment difficile. Et oui, même pour le gouvernement, ça va être difficile. C'est un gros morceau pour le gouvernement. Donc pour le moment, on ne sait pas ce qui va arriver dans les prochaines 48 heures.
En cette période électorale, c'est sûrement une décision que l'opposition critique.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils vont s'en servir, ils vont s'en servir. Hein.
Est-ce qu'on peut dire que cette décision peut compromettre la campagne électorale du président Jonathan?
D'une manière ou d'une autre. Bon, sur le plan économique, les économistes n'ont plus d'arguments pour le défendre. Mais sur le plan social, je pense que ça va beaucoup affecter sa campagne.
On écoutait Maître Hassan Silas, avocat à Lagos, au Nigeria. Voilà, ainsi s'achève cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie de la Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Gros-Didier, qui vous remercie de l'avoir suivi.